Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation et votre accueil en ce jour également. Jour de pluie, mais nous sommes ici bien à l'abri et nous sommes venus pour écouter, partager la parole de notre Seigneur. Donc, merci pour cette lecture dans Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Jésus arrive dans un village et est reçu dans la maison de Marthe et Marie. On a une scène, on va dire, qui pourrait paraître quotidienne ou presque quotidienne. Hein, quelqu'un est invité à la maison. Et là, nous avons deux personnages principaux, Marthe et Marie. Nous allons parler particulièrement de ces deux personnages cet après-midi. Marthe, donc sœur de Marie, et de Lazare, de Béthanie. Marthe voulut honorer la venue et la présence de Jésus en le recevant dignement, avec toute son affection. Marthe demande à Jésus de réprimander sa sœur. On lui voit, « Seigneur, tu ne lui dis rien, tu ne lui demandes pas de m'aider ?» Parce que Marie ne participe pas aux tâches ménagères en cet instant. Marthe apparaît comme une femme de caractère, hein, déterminée, organisée, franche et spontanée. Hey, Jésus, faut demander à la sœur de m'aider, là. Et nous avons Marie, donc sœur de Marthe et de Lazare. Marie est visiblement plus introvertie, elle ne parle pas. Semble être une femme discrète et sensible. Donc ces deux personnages, et on va le lier aussi au personnage de Lazare, le frère, donc ces trois personnages étaient aimés de Jésus. On retrouve cette précision dans Luc au chapitre 11, au verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il n'y a là aucune préférence, mais un amour véritable pour toute une famille, pour ces trois personnages. Par la suite, néanmoins, toutes les deux, hein, quand on lit la suite de l'Évangile, on voit qu'il arrive malheur à Lazare. Et là, Marthe et Marie vont toutes les deux reprocher à Jésus d'avoir laissé mourir Lazare. Marthe, semble-t-il, elle avait à gérer un problème de temps. C'est sans doute une de ces raisons pour laquelle Jésus l'a reprise à ce moment-là précis du repas chez elle. Qui sait, Jésus aurait sûrement pu lui-même pourvoir à la nourriture. N'allait-il pas le faire avec 3000 et 5000 personnes? Mais c'était le temps de se nourrir spirituellement. Au moment du décès de son frère Lazare, Marthe a eu à nouveau un problème avec le minutage de Dieu. « Ah, mais Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort !» Dans Jean chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus allait arriver, c'est elle qui alla au-devant de lui, tandis que Marie était restée à la maison. Là, on a l'impression que les rôles sont inversés. Marthe est active au-devant de Jésus et Marie est en retrait. Marie ne cherche pas à aller à la rencontre de Jésus, elle reste assise à la maison. Et quand Marthe va rencontrer Jésus, elle rend ici un des premiers et des plus beaux témoignages de foi que le Nouveau Testament nous rapporte. Pourquoi ? Parce qu'elle ne douta pas une seule seconde que Jésus aurait guéri son frère s'il avait été présent. Elle comprit bien avant les disciples que Jésus était le Messie, celui qu'ils attendaient. Dans Jean, au chapitre 11, verset 21, elle rajoute « Mais maintenant même, Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et puis quelques versets plus loin, elle dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » C'est bien une des rares personnes qui l'a avoué à ce point. Mais Marthe avait encore besoin de comprendre que le temps appartient à Dieu et que c'est Dieu qui gère le temps pour le meilleur. Lorsque Jésus apprit que Lazare était malade, il dit à ses disciples « Restons encore 2 jours dans ce lieu. » Lieu qui était éloigné de quelques kilomètres de là où était Lazare. Jésus savait que de ramener Lazare à la vie servirait à la gloire de Dieu, mais il fallait attendre que Lazare meure. Il resta donc 2 jours de plus. Lazare devait passer par la mort pour qu'il puisse être ramené à la vie. Et oui, cela peut nous paraître surprenant. À nous, si on réfléchit avec notre intellect, de se dire que c'est impossible, hein. Lazare est mort, il est mort, point final. Mais c'est sans compter l'intervention divine de Jésus. Dans le verset que nous venons de lire, on a l'impression que Marthe a tout faux, hein, et que Marie, elle a tout bon. Mais est-ce que c'est ainsi qu'il faut le comprendre ? Il est vrai que les paroles de Jésus à l'égard de Marthe semblent un peu sévères. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Waouh ! Je pense que moi, si j'avais été à la place de Marthe, j'ai l'impression que le Seigneur me venait de me donner une belle claque. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même Marthe qui est allée chercher le bâton, qui a tendu le bâton à Jésus. Elle lui dit, mais Seigneur, tu lui dis rien. Comment ça se fait que Seigneur, toi Jésus, hein, toi Jésus, tu dis pas à Marie de se débrouiller un peu pour m'aider à mettre la table ou à préparer le repas. Pour bien comprendre cette histoire, il faut savoir que Marthe occupait une place particulière dans la fratrie Marthe, Marie, Lazare. Mais Jésus aimait chacun de ses membres, hein. Nous l'avons lu tout à l'heure. Marthe était la maîtresse de maison. Ce texte ne nous dit pas que Marthe avait tout faux et que Marie avait tout bon. Mais contre les choses matérielles, aussi utiles et nécessaires qu'elles soient, c'est nécessaire de bien recevoir son hôte. Mais entre les choses matérielles et les choses spirituelles, la préséance doit être donnée aux dernières, aux choses spirituelles. Parfois même au détriment des premières. Cela rappelle ce texte, hein, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Par exemple, pour une mère de famille, se priver d'un culte pour aller préparer un succulent repas à ses invités n'est pas forcément et n'est pas la meilleure chose à faire. Parce qu'elle-même va se priver de son repas spirituel. C'est inverser les priorités. Une petite histoire. Un prédicateur avait prêché un dimanche matin sur Marthe et Marie. Un peu comme je le fais cet après-midi. Avec, il faut l'avouer, peu d'estime pour Marthe, en disant « mais c'est normal, Jésus est là et elle fait autre chose ». Je résume. Hein. Il devait être reçu à déjeuner chez des chrétiens de l'église. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, on le fit entrer dans un salon non chauffé, où on le laissa méditer un bon bout de temps. Puis, la maîtresse de maison, avec un grand sourire, ouvrit la double porte qui donnait dans la chaude salle à manger, où trônait une belle table, avec une nappe blanche, des couverts en argent, des verres en cristal, tout embaumé des odeurs de la cuisine. L'hôtesse convia alors le prédicateur en ces termes : votre humble servante Marthe vous invite à partager notre humble repas. Là, je pense que le prédicateur a dû se rappeler du message qu'il venait de partager juste avant. Je pense qu'il a dû changer quand même un petit peu sa façon de penser de Marthe, qui elle n'avait pas tout faux et l'autre avait tout bon. Jésus répondit en reprenant Marthe à ses complaintes quant au fait qu'elle servait seule alors que Marie ne faisait qu'écouter. Il confirma qu'à ce moment-là, dans cette histoire, Marie avait choisi la bonne place, la meilleure place. Et pourtant, Marthe, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, vaut la peine de s'y arrêter, d'être attentive à ses actes et à ses actions et à ses paroles. Si Jésus passait dans mon quartier et choisissait de s'arrêter chez moi, qu'est-ce que je ferais? Je m'assurerais, j'ai parlé en tant que femme, en tant que maîtresse de maison, que tout soit mis en œuvre pour pouvoir présenter sur la table le meilleur des repas. Et puis la maison rangée, propre. Un point d'honneur je vais donner une autre image, c'est à dérouler le tapis rouge à un invité de marque, à un invité d'honneur, exactement comme Marthe le fit. Dans une culture, dans cette culture où on parle là, où la femme n'a qu'une seconde place, Marthe a un accès au cœur de Jésus. Elle interagit avec lui sans réserve, elle l'interpelle. Ça montre presque leur degré de, je ne vais pas dire d'intimité, mais de relationnel. Je ne m'adresserai pas à Jésus en disant « Eh, dis donc, tu ne peux pas lui demander de m'aider ?» Elle l'a fait sans crainte, sans détour, parlant à Jésus comme un copain qui est venu rendre visite. Jésus la repousse pas, lui dit « Va t'occuper de tes fourneaux. » Mais il répond sa requête. Jésus aimait Marthe et la respectait pour qui elle était. Dans les versets suivants, Marthe est citée en premier et Marie en dernier. On voit que Jésus là ne porte pas un jugement sur Marthe, sur la totalité de sa vie, sur sa façon de faire, mais sur ce moment précis. Lors de cet incident, le Seigneur regardait à l'état du cœur de Marthe, à son cœur. Elle servait, elle voulait faire plaisir à Jésus, elle voulait lui donner le meilleur, mais elle le faisait en râlant. Je le fais, mais... Pourquoi je suis tout seul à le faire? Parfois, peut-être qu'en tant que responsable, on a un petit peu des fois cette pensée qui nous traverse. Pourquoi les autres font rien et moi je dois tout faire? Je le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu déjà. La première des choses. Et même si je suis tout seul, je le fais avec bonheur, avec joie. On a souvent donné l'étiquette à Marthe de femme active, d'une manière péjorative, et à Marie, celle de spirituelle. Mais quand on regarde l'ensemble des récits, il n'en est rien. Il n'y en a pas une qui est spirituelle et l'autre qui ne l'est pas. Une qui est active et l'autre qui est passive. Elle attend Jésus et quand il arrive, elle se met à ses pieds. Très franchement, je ne pense pas que Marie ignorait les tâches ménagères. Surtout à l'époque à laquelle elle vivait. Elle avait sans aucun doute choisi sa priorité à ce moment-là, elle voulait écouter Jésus. Mais Marthe, vous ne pensez pas qu'elle voulait aussi s'occuper de Jésus ? L'écouter ? Boire ses paroles ? Se faire du bien ? Que je sois Marthe ou que je sois Marie, si on prend ce récit, ce qui compte, c'est que j'arrive à donner la place d'honneur qui revient à Jésus dans ma vie. Certaines personnes serviront le Seigneur, leur Seigneur, en priant, en témoignant, en chantant, en encourageant, en exhortant, en écrivant, en édifiant, en chantant. D'autres serviront aussi en travaillant en cuisine, en tricotant, en aidant, en nettoyant, en dépannant, en conduisant. Car nous sommes tous différents. Nous réalisons tous des tâches différentes, mais tout en trouvant un équilibre. Imaginons que nous venons de faire un repas à côté, dans la salle qui est à côté, mais qu'à 14h30, le culte commence. Nous avons passé un moment de réjouissance conviviale autour du repas pour se restaurer. On a partagé, on a rigolé, voilà, qu'est-ce que tu fais, quelle a été ta semaine, voilà, on partage et on se nourrit en même temps. À 14h30, c'est l'heure du culte. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a la table à débarrasser, il y a les poubelles à faire, il y a la vaisselle à faire, il y a la salle à ranger. Alors, quelle va être ma priorité? Ma première priorité, je l'ai eue, mais je me suis restauré. J'ai partagé avec mes amis, mais au moment du culte, sincèrement, tout le monde devrait être là. Pour partager le deuxième moment, le moment spirituel. Et après, quand ce moment est fini, d'un même cœur, d'un même corps, d'un même esprit, tout le monde se retrouve et tous ensemble finissent la rencontre. Plutôt que lier quelques 2-3 personnes qui restent et qui font tout le travail pour tout le monde. Encore une fois, en se privant de la nourriture spirituelle. Peut-être qu'à ce moment-là, au moment de ce culte, il y avait une parole pour elles. Mais elles n'ont pas pu la recevoir parce qu'elles n'étaient pas là. Nous devons trouver un juste équilibre. C'est vrai que les temps ont changé. Maintenant, avec les plats préparés, les choses qui vont vite, les fours, les micro-ondes, et tout le tralala, ça va beaucoup plus vite. Mais, encore une fois, je vais prendre le rôle de femme. Nous, femmes, femmes contemporaines, il nous faut trouver aussi l'harmonie, la stabilité, l'équilibre, le juste milieu, la bonne mesure, pour justement joindre le spirituel et le convivial. Ce qui est nécessaire pour notre vie de femme spirituelle. La deuxième chose, c'est de ne pas reprocher à l'autre de ne pas faire comme moi. Car finalement, quand Jésus reprend Marthe, il met l'accent sur le choix de Marie à ce moment-là qui était d'écouter Jésus. Elle avait envie, elle avait besoin d'être à côté de Jésus. Dans notre vie de tous les jours, à un moment donné, est-ce que nous n'avons pas envie de tout arrêter et de se poser aux pieds de Jésus, l'écouter? La troisième chose, c'est de savoir respecter les différences. Encore une fois, comme nous disions tout à l'heure, l'un va être plutôt dans le matériel, l'autre plutôt dans, on va dire, le spirituel, les chants, la prédication, et ainsi de suite. Mais l'un n'est pas meilleur, entre guillemets, le rôle de l'un n'est pas meilleur que le rôle de l'autre. Ce sont des rôles complémentaires, nécessaires. C'est comme les dons dans une église, ils sont différents, mais tous nécessaires. Ce que je fais n'est pas, moi qui suis présent devant vous, ce que je fais n'est pas mieux que la pianiste, ni que mon frère qui s'occupe du projecteur, ni de Tan qui fait les programmes. Chacun a un rôle différent et c'est ce qui fait que la construction est bonne. Elle est complémentaire. Elle répond aux besoins et aux attentes de tout le monde. Parce que si je me compare à l'activité de l'autre, si j'estime que la mienne est meilleure, je tombe dans l'orgueil. Aujourd'hui, on travaille d'un monde plein de stress, qui tourne à toute vitesse. On parle quasiment plus de courrier postal, maintenant c'est MMS, SMS, WhatsApp, Snapchat, Facebook, aidez-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Twitter, Instagram, même des trucs que je connais même pas. Mais bon, papa, une idée, une pensée, une image, une photo, un machin. Et en fait, on est tout le temps là-dedans. Enfin, moi, je suis stupéfait. Même quand, la dernière fois, pour notre anniversaire de mariage avec mon épouse, nous sommes allés au restaurant. Tous les gens, ils étaient sur leur téléphone. Nous, on était là en train de discuter. Et il y en avait un derrière qui était au téléphone. Et les autres, dans les trucs, ils étaient en train de manger, ils étaient à trois, et personne ne se parlait. Voilà, le monde est en mouvement, un mouvement électronique perpétuel. On s'ennuie, on se réveille, hop, Facebook. Je n'ai pas Facebook, je revendique. Peut-être qu'un jour je l'aurai, mais là, j'ai pas Facebook. Ça ne me manque pas. Ce n'est pas indispensable. Je ne suis pas réfractaire, mais je suis contre la surutilisation. Rester connecté, oui, pourquoi pas. Oui, en soi, il n'y a rien de mal. Mais être surconnecté, c'est pas bon. À quel moment nous avons un moment, ne serait-ce que pour nous, seuls? Regardez dans votre journée à quel moment il y a un moment pour vous seul, où vous n'êtes pas devant l'ordinateur, devant la télé, devant le téléphone, où il n'y a rien. Un silence. Eh bien, on perd le silence maintenant. On a peur du silence. On ne veut plus le silence. Il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait des images, il faut qu'il y ait tout un tas de choses. Alors, à quel moment je suis connecté avec Dieu, tiens, puisqu'on parle de connecté? À quel moment je suis connecté avec Dieu? Alors certains me disent « Ah, mais moi je prie en conduisant ». Ouais, moi aussi, why not ? Je peux prier en conduisant. Bon, par contre, intérêt d'avoir les yeux ouverts, quand même, hein, d'avoir les deux mains sur le volant, parce que si tu fais ça, « Oh Seigneur !» Alors est-ce qu'on peut être connecté sincèrement, réellement, profondément? On peut louer Dieu au volant, on peut chanter des cantiques, on peut prier en louange. Mais une prière de relation avec Dieu au volant, je vois pas comment on peut faire. C'est comme si vous décrochez le téléphone. C'est tout pareil. Donc, est-ce que s'adresser à Dieu, c'est « Bon, bah, je profite, je suis dans les embouteillages. Oh Seigneur, merci pour cette journée que tu vas me donner. Oh, oh, ça avance. » Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce qu'on peut être en relation avec Dieu? Et si Dieu a envie de nous parler, à quel moment il nous parle? À quel moment il nous parle, Dieu, dans tout cela? Alors, il y en a qui disent, il y a un slogan qui dit, on ne sait pas où on va, mais on fonce. On peut foncer dans le mur aussi. La bonne réponse consiste à rechercher des moments de paix et de calme dans une spirale d'occupation et d'activisme. Aujourd'hui, on ne parle plus d'activité. J'ai des activités. Non, je suis activiste. C'est-à-dire que je suis tout le temps en activité. Je suis tout le temps en activité. Est-ce que nous prenons le temps de réfléchir? Ou est-ce qu'on agit sur le champ? Parce qu'il faut agir! Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Et ça, ça remonte à Proverbe. Proverbe 21. C'est pas... Et là, on parlait pas de Facebook, de SMS et compagnie à cette époque-là. On parlait pas de ça encore. Avant de faire quoi que ce soit, assurons-nous que nous allons faire la bonne chose et que nous savons où est-ce que nous allons aller. Certaines personnes se lamentent. Ce qui m'arrive. Est-ce que tu as pris du temps pour préparer la chose? Est-ce que tu as pris du temps pour réfléchir? Est-ce que tu as pris du temps pour prier? Oui, j'ai dit, Seigneur, garde un truc, hop, allez, hop, hop, on y va. Bon. Est-ce que c'est ça ta façon de voir la relation que tu as avec Dieu? C'est juste pour lui dire, hey, Seigneur, je vais faire un truc, il faut que tu mettes ton cachet dessus. L'activisme peut aussi nous aveugler. D'ailleurs, c'est pas peu, hein, c'est nous aveugle. Faut pas se voiler la face. D'ailleurs, regardez la répression sur le téléphone au volant. Maintenant, on dit que tu te fais choper au téléphone, au volant avec ton téléphone, c'est retrait de permis. Moi, je fais beaucoup de voitures. Enfin, j'ai une heure pour aller à mon travail. Je croise, je ne sais pas, plusieurs personnes au volant avec le téléphone à l'oreille. Parfois en conduisant comme... Bref, c'est pas de la conduite. Mais on dit, oui, mais j'étais avec mon patron, ou ma femme m'appelle pour que j'aille chercher du pain. Ça peut pas attendre. Tu pouvais pas y penser avant, que le soir il te fallait du pain. Ou ben ton patron il va attendre. Ah, mon patron, il attend, s'il a envie de me... Il me laisse un message. Je le rappelle quand je suis arrivé. Et s'il ne comprend pas, c'est pas grave. D'ailleurs, il sait que je ne réponds pas au téléphone. Comme ça, au moins, c'est clair. Il y a des moments pour chaque chose. Savoir prendre du temps pour écouter... Je termine là-dessus, mes frères et sœurs. Savoir prendre du temps pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Parfois, nous allons être Marthe, parfois, nous allons être Marie. Il faut trouver toujours l'équilibre. Il ne faut pas passer à côté de Jésus quand il a quelque chose à nous dire. Mais aussi, il y a des choses à préparer et c'est normal. Je ne vais pas dire à mon patron... Aujourd'hui, je travaille pas parce que j'attends ce que Jésus veut me répondre. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande non plus. Ne soyons pas stupides. Alors, est-ce que nous sommes plutôt Marthe ou plutôt Marie? Telle est la question. Savoir prendre du temps en dehors de toutes ces agitations, de la famille, du travail, des divertissements. Alors, est-ce que Dieu, il passe avant ou il passe après? Mais pendant tout cela, je ne vois pas comment c'est possible. Toujours occupé à faire quelque chose d'autre. Toujours. Avec toujours de bonnes excuses. L'activisme effréné égale perte de communication avec Dieu. Savoir prendre du temps pour écouter et pas simplement... une prière vite fait dans un embouteillage, parce que c'est l'exemple que je vous ai donné. Jésus regarde dans notre cœur. Quand il nous appelle, Seigneur, oh, j'ai autre chose à faire. J'ai oublié de faire ma lessive. Ta lessive, tu la feras ce soir. Si elle n'est pas faite ce soir, tu la feras demain. Elle est à faire, elle sera faite. Le moment venu. Si Dieu met sur ton cœur de passer une demi-heure de temps avec lui, ne sois pas là en disant « J'ai pas une demi-heure !» Non. Tu vas prendre une demi-heure. Parce que derrière, Dieu va te faire gagner du temps. Parce qu'on a l'impression que c'est nous qui gérons notre temps. Alors, je vais pas faire le côté obscur en disant « C'est pas de quoi demain sera fait !» Mais quelque part, Dieu attend ce que nous passions du temps avec lui. Et parfois en priorité. Que Dieu bénisse sa parole.